RFI, bienvenue. Si vous nous rejoignez, un nouveau point sur l'info à 3h, temps universel.
Mathis Limano.
Et à la une, Washington continue de mettre la pression sur Kiev. Un accord de paix doit être signé et vite, estime la Maison-Blanche, quitte à faire l'impasse sur les territoires conquis par la Russie, vous l'entendrez. Au Niger, les ONG préoccupées par le processus de transition démocratique, il pourrait passer de 3 à 5 ans. Et puis ces jours de vote en Allemagne ce dimanche, les conservateurs de la CDU sont talonnés par l'AfD, parti d'extrême droite. Mais dans ce journal, on s'intéresse aux écologistes. Alors que ce lundi marque les 3 ans de l'invasion russe en Ukraine, les États-Unis accentuent la pression pour un accord de paix sans l'Ukraine et les Européens. Aux Nations Unies, Washington vient de proposer une résolution qui tranche avec les positions de l'Assemblée générale. Lubna Naki.
Le texte a été transmis vendredi aux 193 membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. 3 paragraphes, 65 mots à peine, pour un projet de résolution réclamant, je cite, « une fin rapide au conflit et une paix durable entre l'Ukraine et la Russie ». Les Américains insistent sur le fait que la mission principale de l'ONU est de maintenir la paix et la sécurité dans le monde et de régler les conflits de façon pacifique. Le texte ne porte aucune mention à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ce qui le place automatiquement en opposition à la position de Kiev et de ses alliés européens, ainsi qu'aux précédentes résolutions adoptée par les Nations Unies. D'ailleurs, l'Ukraine et les Européens avaient eux aussi proposé un projet de résolution en prévision de la réunion de lundi à l'Assemblée. Un texte dont le langage a été certes atténué par rapport au précédent, évitant de critiquer directement la Russie, mais qui réclame toujours le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Le texte américain a été salué par l'ambassadeur russe à l'ONU. Ces deux projets de résolution reflètent les approches différentes adoptées par les Européens et les États-Unis depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Lubna Naki, New York, RFI.
Le président américain qui recevra la semaine prochaine les dirigeants français et britanniques à Washington. D'abord Emmanuel Macron lundi, puis jeudi autour de Keir Starmer. Objectif, convaincre Donald Trump de ne pas se précipiter dans un accord bilatéral avec Moscou, alors que le premier ministre britannique vient d'annoncer un nouveau train de sanctions contre la Russie. Pas de libération de prisonniers palestiniens sans l'arrêt des cérémonies humiliantes à Gaza. Voilà comment le bureau du premier ministre israélien justifie le retard dans la libération de plus de 600 détenus palestiniens prévus ce samedi. Le Hamas a lui relâché 6 nouveaux otages lors du dernier échange, de la première phase de l'accord de trêve. RFI 4h03 à Niamey, le Niger et le processus de transition démocratique qui inquiète les ONG. Human Rights Watch parle d'une tournure préoccupante alors qu'une commission nationale vient de recommander une période de transition d'au moins 5 ans, une durée largement supérieure aux 3 ans initialement proposée par la junte en 2023. Autre point préoccupant, l'amnistie générale pour tous les participants au coup d'État, leur permettant ainsi de concourir aux prochaines élections. Pour les Wismudge, directeur Afrique centrale chez Human Rights Watch, ces mesures sont une marche en arrière.
Ils sont en train de traîner. Ils sont en train de freiner, ils sont en train de tout simplement continuer de contrôler le pays, cette junte. Pour nous, c'est un très mauvais signe. Vous voyez, nous sommes dans une situation où le président actuel, le président qui était élu au Niger, il est toujours en détention pour des raisons politiques, Monsieur Mohamed Bazoum avec sa femme. Et donc, le fait que maintenant, eux qui sont responsables de ce coup d'État, il y a pas la question demandée par rapport de leur rôle dans ce coup complètement illégal. Et secondo, le porte est maintenant complètement ouverte pour eux de contester la prochaine élection. Avec cette amnistie, le message est très clair. C'est l'impunité qui règne au Niger. Et pour nous, la crainte, c'est l'avenir proche. Est-ce que les gens seront tenus responsables pour les abus dans l'avenir proche? Et pour nous, on commence à douter.
Lewis Mudge de Human Rights Watch avec Christina Okello. C'est une histoire de diplôme bidouillé qui pourrait lui coûter cher. Le très populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, à nouveau dans le viseur de la justice, accusé d'avoir falsifié son diplôme de licence en sciences administratives. La municipalité a publié un exemplaire du dit diplôme afin de faire taire la polémique, mais le procureur d'Istanbul, surnommé la guillotine ambulante par l'opposition, a ouvert une enquête à Ankara. C'est Cécile Pierre Magnani.
Ekrem İmamoğlu est à nouveau convoqué devant la justice le 26 février et devra répondre aux accusations de falsification de son diplôme universitaire. Le très populaire maire d'Istanbul fait déjà l'objet de plusieurs procédures judiciaires qui pourraient aboutir à des peines d'emprisonnement et d'interdiction de la vie politique. L'annonce de l'enquête intervient alors que l'édile a déposé cette semaine sa candidature pour les primaires de son parti qui se tiendront en mars. Car si la justice s'acharne sur cette personnalité très appréciée dans les rangs de l'opposition, c'est qu'il fait de l'ombre à Recep Tayyip Erdogan. Le président quasi omnipotent compte bien se représenter pour briguer un quatrième mandat en 2028. Cette enquête alourdit un peu plus une atmosphère politique déjà tendue. Des arrestations tous azimuts ont eu lieu ces dernières semaines contre des maires de l'opposition, des représentants du patronat et des militants politiques. Samedi 22 février, le même procureur a lancé une enquête contre le barreau d'Istanbul pour propagande terroriste et diffusion de fausses informations. Céline Pierre Magnani, Ankara, RFI.
60 millions d'électeurs appelés aux urnes ce dimanche en Allemagne. Ils doivent renouveler les 630 sièges du Bundestag, la Chambre basse. Et une question, quelle place pour les Verts, les écologistes allemands, crédités d'environ 13% dans les sondages? C'est à peu près le score obtenu lors des dernières élections de 2021. Leurs partenaires de coalition sociaux-démocrates et libéraux aimeraient pouvoir en dire autant. Mais malgré une vague record d'adhésion, les écologistes doivent aussi affronter de nombreuses attaques. Pascal Thibault, correspondant en Allemagne, a suivi des militants du parti à Duisbourg, dans le bassin de Ruhr.
Dans ce quartier sud de Duisbourg, le tractage dans la rue des Verts est plus facile que dans le nord de la ville, avec des quartiers difficiles où l'extrême droite marque des points où la tension est plus palpable. Sébastien Ritter, adjoint au maire écologiste de Duisbourg, s'engage chez les Verts depuis 15 ans. Il n'a jamais été confronté à un vent aussi mauvais.
La situation est plus tendue. Je n'ai jamais été autant insulté que durant cette campagne électorale. Il y a une haine contre les Verts qui est cultivée dans certains milieux et sur les réseaux sociaux. C'est un défi pour la démocratie.
Il y a les autres, comme cette électrice qui s'arrête sur le stand des Verts. Sa fille dessine à la craie sur le trottoir un message de soutien aux écologistes.
Je trouve ça étonnant qu'ils aient réussi à laisser leur pacifisme traditionnel derrière eux pour s'opposer à Poutine. Chapeau.
En même temps, les Verts à Duisbourg ont accueilli un quart de membres supplémentaires ces derniers mois. Ces personnes veulent défendre la démocratie et un parti qu'ils jugent injustement critiqué. Michel, un Français, milite chez les Verts depuis 4 ans. Il espère que le parti pourra rester aux affaires après les élections.
Ils sont prêts à travailler avec tous les partis démocratiques. Être présent dans la nouvelle coalition, ça serait bien.
L'alliance la plus probable reste celle entre chrétiens et sociaux-démocrates après les élections, mais les écologistes ont aussi leur chance. Pascal Thibault, Duisbourg, RFI.
Et loin devant les Verts, dans les sondages, l'AFD, parti d'extrême droite, crédité de 20%. Il est en deuxième position derrière la CDU et pourrait obtenir le meilleur score de son histoire. On en vient à présent à cette seconde chance pour la sauvegarde de la nature. En novembre, les pays membres de la COP16 biodiversité s'étaient quittés sans réel compromis. Eh bien, elle reprend la COP16 la semaine prochaine avec l'objectif d'obtenir un accord. Et en amont de ce nouveau rendez-vous, la présidence colombienne de la COP a soumis une nouvelle proposition. Pauline Glaise, que prévoit cette note de travail?
La présidence colombienne de la COP16 a ébauché une solution médiane. Elle propose une réforme d'ici 2030 des flux financiers pour la sauvegarde de la nature, des flux qui doivent atteindre 200 milliards de dollars par an d'ici 2030. Alors, selon un observateur, le texte ne répond toujours pas à la question de la provenance des fonds, mais il organise un travail multilatéral pour le définir d'ici 2030. Quelques éléments de réponse néanmoins. Le nouveau document prévoit d'améliorer les performances du Fonds mondial pour l'environnement. Il est également envisagé de désigner ou d'établir un ou des instruments mondiaux sur le financement de la protection de la nature. Et à terme, au moins l'un de ces instruments devrait être placé sous l'autorité de la Convention sur la diversité biologique. C'est une revendication majeure des pays en développement, car ils réclament plus d'équité et de transparence dans l'accès au financement. Alors cet objectif peut-il être atteint par la réforme des outils existants, ou est-ce que cela poserait les prémices d'un nouveau fonds? Cette hypothèse braquerait les pays riches. Le dernier texte sur la table à Cali en prévoyait un, mais les grandes puissances y voient une fragmentation de l'aide au développement.
Et puis le président de l'OM dénonce une vraie corruption. Pablo Longoria, furieux après l'exclusion du défenseur marseillais Derek Cornelius contre Auxerre ce samedi. Les Olympiens se sont lourdement inclinés 3-0. Les affiches de ce dimanche en Ligue 1, Nantes, Lens, Le Havre, Toulouse.